Et avant de retrouver Michel, on va se mettre dans l'ambiance.
La terre, elle brille en fait, elle est d'un bleu brillant, elle luit.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Et puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb, qui découvrons des terres nouvelles, qui jusqu'à présent n'étaient que des petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars, it would be the greatest adventure ever.
Et oui, on a le plaisir de retrouver, comme une fois par mois en moyenne, même si des fois on décale un petit peu, Michel. Michel, bonjour, bienvenue, bien sûr, chez vous.
Bonjour, Joël.
Voilà, je vous présente comme invité. Vous faites partie de la grande famille. Donc, avant d'aborder cette chronique astro numéro 84 sur l'actu, voilà, quelques mots. Melvin nous a parlé, bien sûr, des aides proposées par la MEBA, la métropole, etc. Mais Michel, la première question sur l'actu, c'est autour des impacts de cette guerre, ce conflit qu'il y a en Ukraine en ce moment. Donc, quel impact cela la pose dans le domaine spatial?
Alors, en introduction, je dois dire que j'ai hésité à aborder ce sujet en pensant que les auditeurs sont peut-être saturés par les informations sur l'invasion russe en Ukraine et ses conséquences sur l'Europe, l'économie, etc. Mais au final, il m'a semblé intéressant de montrer que cette crise internationale très grave avait des répercussions jusque dans l'espace. En effet, elle remet en cause les coopérations avec la Russie, aussi dans le domaine aérospatial. Par exemple, le lancement de fusées russes Soyouz depuis la base française et européenne de Kourou en Guyane. Samedi dernier, 26 février, Dmitri Rogozin, directeur général de l'agence spatiale russe Roscosmos, a annoncé par un tweet la suspension de ses tirs. Je le cite... En réponse aux sanctions de l'UE, c'est-à-dire l'Union européenne, contre nos entreprises, Roscosmos suspend la coopération avec des partenaires européens dans l'organisation de lancements spatiaux depuis le cosmodrome de Kourou et retire son personnel, y compris l'équipage de lancement consolidé, de la Guyane française. La Russie a donc rappelé ses 87 ressortissants présents au centre spatial guyanais et sans eux, aucun lancement de Soyouz ne peut avoir lieu. Cette coopération entre Arianespace et Roscosmos remonte à octobre 2011 et concerne aussi bien des tirs depuis la Guyane que la Russie. Pour 2022, 8 lancements étaient prévus, donc 5 en Russie et 3 depuis Kourou. Le prochain était programmé pour le 5 avril et concernait des satellites Galileo, l'équivalent européen du GPS, qui, rappelons-le, est un système américain, au départ conçu pour l'armée américaine, et sur lequel les USA détiennent le contrôle total, pouvant par exemple rendre le service GPS inaccessible dans une zone de conflit, excepté pour ses propres troupes. De son côté, la Russie dispose de son propre système de positionnement par satellite, nommé GLONASS, en service depuis 1996 et redevenu opérationnel en 2011 après une période de dégradation liée au manque de moyens financiers pour le maintenir en état pendant la crise financière et économique qui a suivi la désintégration de l'URSS. Concernant Galileo, le français Thierry Breton, commissaire européen pour l'espace, se veut rassurant en indiquant dans un communiqué de presse, samedi, répondant à l'annonce de Roscosmos, « Je confirme que cette décision n'a pas de conséquences sur la continuité et la qualité des services de Galileo et de Copernicus. » Copernicus est un réseau de satellites pour l'observation de la Terre, opérationnel depuis 2014, alors que les premiers services Galileo ont démarré en 2016, mais le déploiement de nouveaux satellites se poursuit pour fournir une précision supérieure, en principe disponible dès cette année. Le commissaire européen a ajouté « Nous prendrons toutes les décisions appropriées en réponse à cette décision en temps voulu et continuerons résolument à développer la deuxième génération de ces deux infrastructures spatiales souveraines de l'UE. » Sur ce point, il est difficile de savoir quelle solution pourrait être apportée car les lancements de satellites Galileo sans les fusées Soyouz pourraient nécessiter l'emploi d'Ariane 6, dont le premier vol n'est prévu que pour la fin de l'année. L'annonce de Roscosmos a pris les Européens de court, car juste avant, la semaine dernière, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, faisait savoir que malgré la crise ukrainienne, les activités spatiales en coopération avec la Russie se poursuivaient normalement. Pour faire un court rappel des lancements de Soyouz depuis Kourou, on peut dire que cette coopération a été initiée par un accord russo-européen en 1996 et la création de la société conjointe StarSem. Il a ensuite fallu construire un pas de tir spécifique compatible avec le lanceur Soyouz, travaux qui ont débuté en 2005 et ont coûté dans les 400 millions d'euros, répartis pour 2/3 à l'ESA et 1/3 pour Ariane Espace. Suite à des retards sur les travaux et la qualification du pas de tir, le premier lancement d'un Soyouz n'a eu lieu que le 21 octobre 2011 avec les deux premiers satellites du système Galileo. Au total, il y a eu 25 tirs de Soyouz depuis le centre spatial guyanais, à chaque fois avec un ou plusieurs satellites. Les derniers étaient le 4 décembre avec deux satellites Galileo et le 10 février avec un groupe de 34 satellites du réseau OneWeb, un service d'accès Internet via une constellation de satellites en orbite basse, donc un projet concurrent du Starlink de SpaceX souvent évoqué ici. On notera que ces tirs ne concernent en rien les vols Soyouz habités en direction de l'ISS, la Station Spatiale Internationale.
Alors justement Michel, est-ce que la crise ukrainienne, est-ce qu'elle a des conséquences également pour l'ISS et son équipage actuel ?
Alors malheureusement oui, et c'est une première, hein, je dois dire, car pendant les précédentes crises internationales, jamais la coopération spatiale n'avait cessé. Par exemple, en mars 2014, en pleine crise de Crimée, un équipage comprenant deux Russes et un Américain avait rejoint l'ISS dans une capsule Soyouz depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Je rappelle à nos auditeurs que l'envoi de spationautes vers l'ISS reposait entièrement sur les Soyouz ces dernières années, jusqu'à ce que les Américains retrouvent la capacité de lancer des vols habités avec les capsules Crew Dragon de la société privée SpaceX, avec un premier test habité réussi en 2020, puis le premier vol commercial Crew One le 16 novembre suivant, Crew 2 le 23 avril 2021 qui avait transporté notre spationaute Thomas Pesquet, et le dernier en date, Crew 3 le 11 novembre dernier. Cette suspension de la coopération spatiale de la Russie pourrait bientôt poser un problème à l'un des passagers actuels de l'ISS, l'Américain Mark Vandeheye. Enfin, je suppose que ça se prononce comme ça, je suis pas sûr. Son cas est un peu complexe car en principe, les cosmonautes redescendent sur Terre avec le même vaisseau qui les a amenés. Sauf que lui, passager du vol Soyouz MS-18 lancé le 9 avril 2021, a cédé sa place retour à l'un des membres de l'équipe de tournage russe qui avait passé une douzaine de jours à bord de l'ISS en octobre 2021. Et il devait revenir sur Terre à bord du Soyouz MS-19, celui qui avait emporté l'équipe de tournage et est actuellement arrimé à l'ISS, et je crois en ce mois de mars. À ce stade, on ne sait pas si la suspension des coopérations dans l'espace avec la Russie perturbera ce planning en refusant l'embarquement de l'astronaute américain à bord de la capsule russe et si une autre solution devra être trouvée pour son retour, par exemple à bord d'un Crew Dragon. Mais ce n'est pas le seul aspect de l'impact de la crise ukrainienne sur l'ISS, car à côté du prestige des missions habitées, on néglige un peu l'intendance de la station, si je peux dire. En effet, pour fonctionner, l'ISS doit être ravitaillé régulièrement par des vols automatiques apportant le fret nécessaire, par exemple la nourriture et l'eau pour l'équipage ou le matériel pour mener certaines expériences. Ces vols cargo sont partagés entre différents opérateurs, dont l'ESA avec son ATV qui n'a pas volé depuis 2014, ou la JAXA, l'agence spatiale japonaise, avec son HTV qui n'a réalisé qu'une seule mission en 2009. Ces dernières années, ce ravitaillement de l'ISS repose principalement sur SpaceX avec Dragon, la version cargo de la capsule, dont le 24e vol avait rejoint l'ISS le 22 décembre et s'en est détaché le 23 janvier, le cargo russe Cygnus de la société américaine Northrop Grumman, qui vient de rejoindre l'ISS le 21 février avec 3,5 tonnes de fret, et le cargo russe Progress, dont la dernière mission est arrivée à bon port le 17 février, avec 2,5 tonnes de fret, dont 430 kg de carburant pour les manœuvres.
Alors Michel, est-ce que les Russes pourraient cesser de ravitailler justement l'ISS ?
Alors à ce stade, nous n'avons aucune information en ce sens. Mais les déclarations de Dmitri Rogozin sont inquiétantes pour un autre aspect de ces vols cargo. En effet, l'ISS étant en orbite basse autour de la Terre, à 400 km environ, elle frotte légèrement sur l'atmosphère, même si à cette altitude, il y a très peu de gaz. Cela la ralentit légèrement, et pour tout satellite, qui dit ralentissement, dit perte d'altitude, environ 2 km par mois pour l'ISS. Il y a donc nécessité de la remonter périodiquement, et même si elle dispose de ses propres moteurs pour ses opérations, d'ailleurs sur le module russe Zvezda, elles sont généralement réalisées en utilisant les cargos amarrés et leur carburant pour préserver les possibilités de manœuvres autonomes de la station. Et c'est sur ce point que les propos du directeur de Roscosmos sont menaçants, car suite aux mesures internationales visant la Russie, il a déclaré jeudi 24 février, hein, je le cite, « Si vous bloquez la coopération avec nous, qui sauvera l'ISS d'une désorbitation incontrôlée et tombera sur les États-Unis ou l'Europe ?» Il est également possible de faire tomber une structure de 500 tonnes en Inde ou en Chine. Voulez-vous les menacer avec une telle perspective ? L'ISS ne survole pas la Russie, donc tous les risques sont à vous. Êtes-vous prêt à les courir ? Pour assurer nos auditeurs, je signale que l'ISS est actuellement assez haute, dans les 420 km, et que ce problème ne se posera que dans plusieurs mois. D'ailleurs, en faisant le trajet pour venir ce matin, j'ai refait un petit calcul mental, c'est même plusieurs années en fait. On peut penser que ces menaces sont sans doute excessives et visent un effet psychologique pour les peuples concernés, comme celles contenues dans les dernières interventions de Vladimir Poutine dans les médias. Mais c'est vrai que le problème pourrait se poser en cas d'un gel total de toute coopération dans le domaine spatial. On peut même se demander comment pourra se poursuivre la cohabitation des cosmonautes russes, actuellement deux à bord de l'ISS, avec les cinq autres membres de l'équipage, quatre Américains de la NASA et un Européen, l'Allemand Matthias Maurer.
Alors Michel, y a-t-il d'autres impacts justement dans le domaine spatial du gel des coopérations par la Russie ?
Oui, les Européens s'inquiètent pour une mission conjointe avec la Russie, ExoMars. Après l'échec partiel de la première mission de l'ESA vers Mars en coopération avec Roscosmos, ExoMars 2016, dont l'orbiteur TGO s'est bien satellisé autour de la planète rouge, mais l'atterrisseur Schiaparelli s'était écrasé à la surface, les deux agences ont poursuivi leur collaboration pour une seconde mission ExoMars, prévue initialement pour être lancée en 2018. Mais les difficultés techniques, la dernière fois en 2020 sur les parachutes de l'atterrisseur, ont reporté ce vol de 2 ans en 2 ans, car comme je l'ai déjà expliqué ici, une fenêtre de tir favorable se présente seulement tous les 2 ans, quand Mars et la Terre sont les plus proches. Jusqu'à cette année, où ExoMars 2022 doit s'envoler fin septembre ou début octobre, à bord d'une fusée russe Proton depuis la base de Baïkonour. Cette mission est cruciale pour démontrer la capacité de l'ESA à déposer en douceur un atterrisseur à la surface de la planète rouge. Ce que jusqu'à présent n'ont réussi que les Russes, les Américains et les Chinois en 2020. En l'occurrence, il s'agit principalement d'un rover baptisé Rosalind Franklin pour rendre hommage à la biologiste britannique découvreuse de la structure hélicoïdale de l'ADN, spoliée par Watson et Crick qui ont reçu pour cela le prix Nobel de médecine en 1962. Ce véhicule martien de 300 kg, à comparer au plus de 1 tonne de persévérance, sera capable de forer le sol jusqu'à 2 mètres de profondeur pour analyser les carottes prélevées et y rechercher des marqueurs biochimiques. Mais avant de commencer son exploration, il devra rejoindre le sol grâce à une plateforme d'atterrissage développée par Roscosmos et baptisée Kazachok. La coopération des deux agences spatiales est donc indispensable pour la réalisation de cette mission martienne, la seule prévue cette année. Actuellement, le rover est encore en Europe, plus précisément en Italie, sur le site turinois de Thales Alenia Space, où on procède à des tests avec la plateforme Kazachok. Ils devaient être tous deux acheminés en Russie à partir du 24 mars par des avions cargo russes. La dernière information sur ce dossier remonte à lundi, le 28 février, où suite à une réunion de ses États membres, l'ESA a indiqué que le départ de cette sonde en 2022 était très peu probable. Je cite. Affaire à suivre dans les semaines et les mois qui viennent.
Alors à part justement ces conséquences de la guerre en Ukraine, est-ce que vous avez d'autres nouvelles plus réjouissantes de l'espace, Michel ?
Alors pas vraiment, mais cela dépend de la perception plus ou moins positive qu'on a du déploiement de la constellation de satellites Starlink de SpaceX d'Elon Musk. Promesse d'un accès Internet au débit partout sur Terre, mais aussi source d'une importante pollution lumineuse du ciel et d'un grand risque de multiplication des débris spatiaux en orbite. Lors de notre dernière chronique du 2 février, j'avais relaté comment les institutions, des institutions françaises s'opposaient à ce déploiement, puisque 3 des 4 communes où devaient être implantées les grandes antennes paraboliques nécessaires aux communications avec les satellites avaient fini par dissuader SpaceX France de les construire sur leur territoire, la seule exception étant pour le moment Villeneuve-d'Ornon en Gironde. Mais les risques pour le réseau Starlink peuvent aussi venir de l'espace. La tempête solaire du 4 février a détruit 40 des 49 satellites qui avaient été lancés la veille. Le mécanisme de cette hécatombe est simple à comprendre. L'énergie que la Terre reçoit du Soleil n'est pas constante, car elle varie en fonction de l'activité de notre étoile, notamment lorsque des bouffées, si je peux m'exprimer ainsi, sont envoyées dans notre direction. C'est exactement ce qui s'est passé le 4 février, quand un orage magnétique est venu perturber notre magnétosphère, c'est-à-dire le champ magnétique de la Terre, provoquant une dilatation de l'atmosphère. Comme je l'ai expliqué à propos de l'ISS, les satellites en basse altitude sont freinés par leur frottement sur l'atmosphère. D'autant plus pour des Starlink tout juste lancés qui n'étaient qu'à environ 200 km d'altitude et ont perdu jusqu'à 50% de leur vitesse. Ils sont donc désorbités et seront détruits lors de leur entrée atmosphérique dans les jours et les semaines qui suivent. La société privée a aussi officiellement confirmé le 8 février la perte de 40 de son nouveau train de 49 satellites. Cet épisode spectaculaire aura été l'occasion de constater que la mise en place de cette constellation donne lieu à de nombreuses pertes, car sur les 2095 satellites lancés auparavant, on estime qu'entre 210 et 220 avaient déjà été perdus par obsolescence ou dysfonctionnement. Par exemple, le 23 janvier dernier, deux chutes ont été enregistrées par le système français Vigiciel, destiné à détecter les bolides traversant notre atmosphère. Avec les 40 nouveaux échecs, les pertes dépassent nettement les 10%, alors que SpaceX les avait évalués à seulement 5% il y a moins d'un an. Comme le coût de construction de chacun est estimé entre 250 et 500 000 dollars, auquel il faut ajouter le prix du lancement, ce sont donc des millions de dollars qui sont perdus par la société en raison de ces échecs, et un surcoût équivalent à investir pour compléter la mise en service de son réseau Internet spatial. Avant de clore cette info sur Starlink, on peut ajouter un petit mot sur la crise ukrainienne. Dans la nuit de samedi à dimanche, Elon Musk a annoncé la mise en service des accès Internet de son réseau en Ukraine. Il faut dire qu'il avait été interpellé quelques heures plus tôt par Mikhail Fedorov, vice-premier ministre chargé du secteur numérique en ces termes. Pendant que vous essayez de coloniser Mars, la Russie essaie d'occuper l'Ukraine. Pendant que vos fusées atterrissent avec succès depuis l'espace, les roquettes russes attaquent la population civile ukrainienne. Nous vous demandons de fournir à l'Ukraine des stations Starlink. S'il est difficile de savoir comment se concrétise réellement ce déploiement, avec la question des stations au sol et de la fourniture des terminaux compatibles, son objectif serait de garantir au gouvernement ukrainien, voire à la population, un accès au réseau mondial, alors qu'on peut s'attendre à ce qu'il soit coupé par l'armée russe via des cyberattaques ou d'autres actions de piratage. Personnellement, je m'interroge sur les réactions russes que pourrait susciter cette annonce. En effet, je rappelle que les Russes avaient procédé le 15 novembre dernier au test de destruction d'un de leurs satellites par un missile, produisant un nuage de débris dangereux pour l'ISS, sujet que nous avions évoqué dans notre chronique du 24 novembre. Or, lors d'une table ronde télévisée sur l'invasion russe de l'Ukraine, car comme tout un chacun, j'essaie aussi de suivre les actualités, j'ai entendu le consultant spécialiste des questions de stratégie militaire Pierre Servant, qu'on voit régulièrement sur les plateaux TV, rappeler que différents indices ces derniers mois pouvaient permettre de prévoir le passage à l'action de Poutine, et parmi eux, il avait cité ce test militaire spatial. Je me demande donc s'il faut craindre que les Russes s'en prennent aux satellites Starlink pour couper cet accès Internet de secours à l'Ukraine, au risque de démultiplier le nombre de débris spatiaux et donc de limiter dans le futur l'utilisation des satellites en toute sécurité et surtout la possibilité de lancement de vols habités.
Et pour finir, si vous voulez bien, sur une note positive, de bonnes nouvelles du JWST.
Alors en effet, une mission spatiale actuelle très importante pour les astronomes est la mise en service du JWST, ou James Webb Space Telescope, le nouveau télescope spatial de la NASA, auquel nous avions consacré une bonne partie de la chronique astro du 5 janvier, que nos auditeurs peuvent retrouver sur notre site web, je rappelle, www.constellationsetgalaxies.org. La dernière fois, le 2 février, j'avais indiqué qu'il était bien arrivé à destination, au point de Lagrange numéro 2, qui se trouve derrière la Terre par rapport au Soleil, à environ 1,5 million de kilomètres, une position stable qui lui permet de rester pratiquement fixe par rapport à la Terre dans sa révolution autour du Soleil. Et pendant son trajet, toutes les étapes de son déploiement s'étaient bien déroulées. De son bouclier solaire, destiné à lui conserver une température de fonctionnement très basse, dont les 5 écrans de protection, fins comme du papier d'aluminium mais grands comme un court de tennis, qui avaient été déroulés début janvier, suivi par la mise en place du miroir secondaire et enfin le dépliement de son miroir primaire de 6,50 m, replié en 3 segments pour tenir dans la coiffe de la fusée Ariane 5 lors du lancement. Cette étape délicate avait été réussie le 8 janvier. Traumatisé par le ratage initial de la mise en service de son prédécesseur, le télescope Hubble, dont les premières images envoyées étaient floues suite à une erreur dans le façonnage de son miroir primaire, les astronomes sont suspendus à l'arrivée des premières photos du JWST, dont les réglages doivent se poursuivre pendant encore plusieurs mois, les premières images scientifiques n'étant attendues qu'à la fin du printemps. Comme je l'avais indiqué, la première étape de cette calibration est réalisée sur une étoile de la Grande Ourse, qui sert de cible pour régler l'alignement correct des 18 miroirs hexagonaux afin de constituer l'équivalent d'un seul miroir avec une précision extrême, environ 10 000 fois plus petite que l'épaisseur d'un cheveu. numérotée HD 844-06, elle n'a rien de bien particulier. Elle a été choisie pour son éclat dans l'infrarouge, zone du spectre où fonctionnent les instruments du JWST, et sa position isolée dans le ciel. Et la NASA commence à publier des photos pour montrer la bonne progression de ces réglages, images que l'on peut facilement trouver sur leur site, la dernière publication datant de vendredi. On vient de franchir avec succès les étapes 2 et 3 des 7 qui doivent conduire au parfait alignement des 18 segments du miroir. Actuellement, les réglages sont réalisés séparément sur chacun des segments, en produisant volontairement 18 images de l'étoile sur le capteur, une par miroir. Au départ, dans une mosaïque aléatoire complètement incohérente, sur l'image du 2 février publiée le 11, puis organisée en une belle figure régulière hexagonale depuis celle publiée le 18 février. En agissant sur chacun des miroirs hexagonaux, l'équipe de Lee Feinberg, responsable de la chaîne optique du web, cherche à améliorer la qualité de chacune de ces images qui sont devenues nettement plus ponctuelles sur la publication du 25. Au final, on fera converger les 18 faisceaux de lumière sur le capteur pour n'obtenir plus qu'une seule image de l'étoile bien plus lumineuse. Ensuite, une douzaine d'autres étoiles moins lumineuses seront visées pour optimiser les réglages.
Allez, on est toujours avec Michel Favré sur l'antenne d'Odo Radio pour sa 84e chronique astro. Et là, Michel, vous allez aborder la deuxième partie de votre chronique autour de la coopération internationale dans le domaine spatial.
Voilà, en raison de l'actualité, avec les retombées dans le domaine spatial de la guerre en Ukraine, peut-être temporaire ou bien marquant au contraire l'entrée dans une nouvelle période de l'exploration spatiale avec de nouvelles alliances ou de nouveaux affrontements comme à l'époque de la guerre froide, il m'a paru pertinent de rappeler un peu l'histoire de ces coopérations, sujet que nous avions évoqué en octobre et novembre 2016 lorsque j'avais retracé les grandes lignes de l'histoire de la conquête spatiale. Même s'il y a eu des pionniers auparavant, l'aventure spatiale a débuté après la Deuxième Guerre mondiale sur les vestiges du développement par les nazis des missiles V2, avec notamment la récupération par les Américains de l'ingénieur Werner von Braun, célèbre pivot du programme spatial des USA, et symétriquement des usines, bases de lancement et laboratoires par les Soviétiques, car ils se trouvaient principalement sur le territoire de ce qui deviendra l'Allemagne de l'Est. L'essor du spatial dans les années 1950 et 60 se déroule donc en pleine guerre froide, opposant le bloc soviétique aux Américains, et il ne faut pas oublier que le développement des lanceurs, les fusées, va de pair avec celui des missiles intercontinentaux, susceptibles de transporter des charges nucléaires jusque sur le territoire du bloc opposé. À cette époque, il n'est donc pas question de coopération, mais bien d'un affrontement, avec au départ de nombreux succès pour l'URSS, avec Sputnik, Laïka, Gagarine, avant que les USA ne rattrapent leur retard, notamment sous l'impulsion du président Kennedy, réussissant au final à gagner la course vers la Lune avec le programme Apollo, dont il existait bien entendu un équivalent côté soviétique. C'est après la retombée du soufflet Apollo, si je peux dire, que l'idée de coopération dans le domaine spatial commence à faire son chemin, notamment sous la présidence Nixon, qui, malgré bien des reproches qu'on peut faire à sa politique, a tenté des ouvertures en direction de l'URSS et de la Chine. Dans le domaine spatial, cela correspond aussi à l'abandon des missions lointaines vers la Lune, voire Mars un jour, au profit de vols habités en orbite terrestre, avec le Skylab en 1973-74, un laboratoire spatial bricolé à partir d'un étage de fusée Saturne V, puis une mission conjointe Apollo-Soyuz en 1975, début symbolique de la coopération internationale qui s'est concrétisée ensuite avec la station Mir puis l'ISS. La station spatiale soviétique Mir, dont le nom en russe signifie « paix », est mise en orbite basse le 19 février 1986 pour son premier élément, puis l'ajout de modules supplémentaires s'est poursuivi jusqu'en avril 1996. Comme avec l'actuel ISS, l'objectif était de disposer d'une plateforme permanente permettant des séjours de longue durée afin de mener des expériences en apesanteur, on dit aujourd'hui micro-pesanteur, et bien sûr observer la Terre. L'accueil à bord de cosmonautes venant d'autres pays s'est fait au travers du programme Intercosmos mis en place par les Soviétiques dès 1969 afin de permettre l'accès à l'espace aux pays du pacte de Varsovie et même de quelques pays non alignés comme l'Inde ou la France. Dans les années 1980 puis 90, cette possibilité s'est étendue à d'autres pays. Et Mir a ainsi pu accueillir des spationautes européens, de France 6 fois, d'Allemagne 5 fois, du Royaume-Uni, de l'Autriche et même du Canada et du Japon. Avant la fin des missions en août 1999, après plus de 10 ans d'occupation ininterrompue. Puis sa désorbitation est décidée en 2000 et sera réalisée le 23 mars 2001 avec sa désintégration dans l'atmosphère et la chute des débris dans le sud Pacifique. N'en déplaise à Paco Rabanne qui prédisait en 1999 sa chute catastrophique sur Paris pour ceux qui s'en souviennent. Les Soviétiques avaient imaginé une suite avec un projet Mir 2 commencé en 1976 mais qu'ils ont abandonné en 1993 car entre-temps, c'est le projet ISS, la Station Spatiale Internationale, qui devait prendre le relais dans l'espace. Et d'ailleurs, certains modules qui avaient été conçus pour Mir 2 ont été incorporés à l'ISS. Les modules Zarya, le premier élément de l'ISS mis en orbite en 1998, et Zvezda, lancé en 2000, ainsi que les compartiments d'amarrage Pirs en 2001, Poisk en 2009 et Razvet en 2010.
Et comme son nom l'indique, c'est avec la station internationale que se concrétise la coopération spatiale, notamment entre Russes et Américains.
Effectivement, et je l'avais détaillé lors de la chronique numéro 74 du mois d'avril 2021, que nos éditeurs peuvent toujours retrouver sur notre site web. En résumé, le projet est lancé par Ronald Reagan en 1983, sans doute pour concurrencer la future Mir soviétique. Mais dès 1984, il annonce la volonté de construire l'ISS en coopération avec d'autres pays. L'ESA, l'Agence spatiale européenne, s'associe au projet en 1985, suivi la même année par la CSA, l'Agence spatiale canadienne, puis la JAXA japonaise. En 1993, après la dislocation de l'URSS et une réduction drastique des programmes spatiaux soviétiques en raison de la crise financière et économique qui les frappe, les Russes sont invités par Clinton à rejoindre le projet piloté par la NASA. Le cadre juridique de cette coopération internationale est principalement l'IGA, accord intergouvernemental de l'ISS, signé le 29 janvier 1998 par les 15 pays impliqués dans le projet, l'ESA comptant pour 11 avec ses différents pays qui la composent. Son principe est que la présence à bord sera proportionnée à la participation de chacun des partenaires et notamment des modules développés par chacune des agences. La construction en orbite a commencé en novembre 1998 avec l'envoi du module russe Zarya par une fusée russe Proton, suivi par le module Unity de la NASA transporté par une navette américaine. Puis progressivement, module après module, comme un gros mécano, jusqu'à la configuration actuelle d'une taille de 110 mètres par 70, plus grande qu'un terrain de foot, sur une hauteur de 30 mètres, le tout représentant une masse de 450 tonnes. Les astronautes sont accueillis dans un espace représentant un volume qu'on pourrait se représenter comme 5 bus en enfilade, avec un espace intérieur d'environ 2 mètres sur 2. Les trois premiers astronautes, deux Russes et un Américain, y arrivent le 2 novembre 2000, à bord d'un Soyouz, et en repartent le 19 mars 2001 avec la navette spatiale Discovery. C'était la mission 1, et depuis la station est occupée de manière permanente par un équipage de 6 cosmonautes, et maintenant 7 depuis que les capsules Crew Dragon en transportent 4 à la fois, jusqu'à la 66e mission actuelle. Les séjours sont longs, en moyenne de 6 mois, mais certains astronautes y sont restés presque un an, le record étant détenu par l'Américain Scott Kelly avec 340 jours et pour les femmes Christina Koch avec 328 jours. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la crise géopolitique internationale fait peut-être peser une incertitude sur la poursuite de la coopération dans l'ISS. Mais de toute façon, son avenir ne devait pas être très long, car la NASA ne l'a pour le moment pas financé au-delà de 2024, peut-être prolongeable jusqu'en 2028, car elle envisage pour la suite une plateforme en orbite autour de la Lune qui lui serait utile pour son programme lunaire Artemis, comme passerelle entre les trajets Terre-Lune et les navettes vers une future base permanente sur le sol lunaire. Cette structure, baptisée Lunar Gateway, a fait l'objet d'un accord entre Roscosmos et la NASA en septembre 2017.
Mais ces missions habitées ne sont pas les seules coopérations internationales dans la conquête spatiale, comme vous l'indiquiez, Michel, avec la mission ExoMars.
C'est vrai que pour le grand public, les missions humaines sont plus prestigieuses, l'intérêt pour les sondes spatiales étant souvent un peu moins grand, et on ignore souvent qu'elles sont le fruit de coopération. Leur histoire est tout à fait parallèle à ce que nous venons de voir pour les missions habitées, avec un démarrage en pleine guerre froide et donc une course en parallèle des blocs américains et soviétiques pour envoyer leurs sondes vers la Lune, puis les planètes du système solaire comme Mars et Vénus, puis les planètes extérieures Jupiter, Saturne et au-delà. Pour la Lune, c'est l'époque des programmes Luna, côté soviétique et côté américain, successivement Pioneer, Ranger, Lunar Orbiter, puis Surveyor. Vers les planètes, ce sont les Mariner américains, suivis par le grand tour des planètes extérieures des deux Voyager. Et côté soviétique, les missions Mars et Venera. Dans ce domaine des sondes spatiales, les coopérations internationales ont démarré aussi dans les années 1990, mais vu les durées de développement de ces programmes, on n'en voit le résultat que bien plus tard. Elles sont aussi moins fréquentes que pour les missions humaines, et sauf erreur de ma part, il n'y a presque pas eu de coopération directe entre les USA et la Russie. Mais chacune de leurs agences spatiales, NASA et Roscosmos, ont parfois collaboré avec d'autres, notamment l'ESA européenne, même si on l'ignore souvent car la NASA a le chic pour se mettre en avant dans les médias. Si on prend le cas de Mars, qui est sans doute le plus emblématique pour le public, le rover Curiosity posé en 2012 comporte des instruments développés par des partenaires, notamment sa ChemCam, permettant d'analyser à distance les roches en les pulvérisant avec un rayon laser puissant, qui était sous la responsabilité du CNES français, auquel ont été associés d'autres partenaires comme le CEA ou la société Thales. Il en va de même avec le dernier rover américain Perseverance et sa SuperCam. Et je rappelle que les échantillons de sol martien qu'il est en train de collecter sur Mars doivent être apportés sur Terre à l'horizon 2030 par une mission conjointe de la NASA pour leur récupération et leur renvoi en orbite martienne et l'ESA pour leur retour jusqu'à la Terre. Les deux principaux instruments de la sonde américaine InSight destinée à étudier le sous-sol de Mars depuis son arrivée en 2018 ont été développés par le CNES français pour le sismomètre CEIS et l'agence spatiale allemande DLR pour le capteur de flux de chaleur HP3. De même, pour certains instruments de la sonde Dawn, envoyés pour explorer les gros astéroïdes Vesta et Ceres en 2007, qui ont été développés par l'agence allemande DLR et l'italienne ASI. Cette coopération peut porter aussi sur des aspects spécifiques des missions. Par exemple, pour renvoyer vers la Terre les résultats de leurs explorations, une des voies utilisées par les rovers martiens américains passe par les satellites en orbite autour de Mars utilisés comme des relais, dont Mars Express de l'ESA, qui avait été lancé par un Soyouz depuis Baïkonour. Et il en va de même pour l'atterrisseur de la mission martienne chinoise Tianwen-1, posé en 2021, et son petit rover Zhurong, alors que la Chine a plutôt pour habitude de faire cavalier seul dans le domaine spatial. Mais elle a déjà laissé entendre que son relais de communication lunaire, Keqiao, qui lui a permis de poser sa sonde Chang'e 4 sur la face cachée de la Lune, pourrait être utilisé aussi par de futures missions lunaires d'autres agences. Plus loin, dans le système solaire, nos auditeurs se souviennent peut-être de la mission Cassini-Huygens, lancée en 1997 et arrivée près de Saturne en 2004. La sonde Cassini de la NASA avait littéralement servi de transporteur pour le module Huygens de l'ESA qui s'est posé sur le satellite Titan le 14 janvier 2005. La sonde Bepi Colombo, lancée en 2018 à destination de Mercure, autour duquel elle devrait se mettre en orbite en 2026, est le fruit d'une coopération entre l'ESA et la JAXA japonaise. Idem pour la future mission MMX visant les satellites de Mars, Phobos et Deimos, prévus pour 2024. Si on se focalise sur les coopérations de Roscosmos en raison de l'actualité dramatique de ces derniers jours, on peut surtout citer les missions martiennes ExoMars avec l'ESA dont j'ai parlé et qui avaient été précédées par la sonde russe Mars 96 qui embarquait des instruments de différents pays dont 11 européens et 2 américains. Mais elle s'est malheureusement désintégrée dans l'atmosphère suite à un lancement raté. À l'horizon plus lointain, peut-être 2029, la mission russe Venera D à destination de Vénus doit associer une sonde atmosphérique. À un moment, Roscosmos envisageait des ballons flottants dans l'atmosphère vénusienne, mais cette conception semble avoir été abandonnée. Donc une sonde atmosphérique à laquelle serait associé un module de descente baptisé LIS qui serait fourni par la NASA. Mais on comprend bien qu'aujourd'hui, la poursuite de ces coopérations avec les Russes risque fortement d'être mise en cause. Et la première victime en sera l'ESA, avec ExoMars 2022, qui devait être le premier atterrissage d'un rover européen sur la planète rouge en 2023.
Allez, vous êtes toujours à l'écoute des programmes d'Odo Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, odoradio.fr, Ouda Plus, bien sûr, pour nous suivre. On est toujours avec Michel Favré pour sa 84e chronique astro. Et là, Michel va nous parler du ciel du mois.
Alors, comme chaque mois, je renvoie les auditeurs vers la rubrique ciel du mois de la section astronomie de notre site web, www.constellations et galaxies, surtout pour y voir les cartes du ciel. On ne peut pas montrer de cartes à la radio. Et avoir plus de détails. Je la mettrai à jour pour le mois de mars cet après-midi. En cette fin d'hiver, les journées continuent à s'allonger doucement, mais on peut toujours observer le ciel nocturne relativement tôt le soir, puisqu'en ce moment, le soleil se couche vers 18h45 et la nuit arrive vers 19h45. Et 20h30 si on veut un ciel bien noir. Fin mars, ce sera très différent, car le coucher sera vers 20h30 et la nuit vers 21h30. Il faut dire qu'entre-temps, le dimanche 27, pour être précis, on aura fait, comme chaque année, un saut de 1 heure en passant à l'heure d'été, ce qui n'a aucune cause astronomique, mais correspond juste à l'objectif d'économiser de l'énergie en profitant de soirées plus tardives. Pour la configuration du ciel observé, ça ne change absolument rien, car c'est nous qui décalons nos horaires par rapport au cycle quotidien naturel. En ce dernier mois de l'hiver, ce sont les constellations typiques de la saison qui occupent la plus grande partie du ciel en début de nuit, avec la belle figure d'Orion bien haute plein sud. On peut remarquer que les étoiles les plus brillantes qui l'entourent forment comme un grand G dans le ciel, permettant de situer les principales constellations hivernales. En commençant devant Orion, c'est-à-dire à l'ouest, on trouve dans le sens inverse des aiguilles d'une montre Aldébaran du Taureau à la nuance orangée, Capella du Cochet et sa voisine, puis Castor et Pollux des Gémeaux, Procyon du Petit Chien et Sirius du Grand Chien, l'étoile la plus brillante du ciel. Puis on finit par les étoiles d'Orion avec Rigel, son pied droit, puis ses épaules, Bellatrix et Bételgeuse, formant la barre du G. En tout début de nuit à l'ouest, s'attardent encore quelques constellations de l'automne, comme Pégase, sur le point de se coucher, surmontée par Andromède, dans laquelle les astronomes ne manquent jamais d'observer la grande galaxie la plus proche de nous, à quand même 2,5 millions d'années-lumière. C'est l'objet le plus lointain qu'on puisse distinguer à l'œil nu dans le ciel, et on peut déjà l'observer comme une petite ellipse laiteuse dans une simple paire de jumelles. À l'inverse, côté est, ce sont les constellations du printemps qui commencent à se montrer, et notamment la figure bien reconnaissable du Lion qui va monter progressivement au sud dans la nuit. En fin de mois, toujours en début de nuit, mais vers 21h30 à cause du passage à l'heure d'été, la situation aura bien évolué dans le ciel d'hiver, évolué avec le ciel d'hiver occupant la moitié ouest du ciel, Orion au sud-ouest déjà bien incliné vers l'horizon pour aller se coucher, et la moitié est peuplée des constellations du printemps. Côté planète, on ne peut plus en voir le soir, et c'est seulement le matin que la très brillante Vénus se montre, se levant vers 5h15 en ce moment, 6h à l'heure d'été en fin de mois, et qu'on peut voir jusque dans les lueurs de l'aube. Elle est suivie de peu par Mars, reconnaissable à sa couleur orangée, mais bien plus discrète, ayant à peu près l'éclat d'une étoile brillante, car elle est encore très éloignée de la Terre. On peut encore apercevoir Mercure dans les lueurs de l'aube, mais cela deviendra difficile à partir de la mi-mars. À l'inverse, c'est Saturne qui fera son apparition dans le ciel du matin en fin de mois. Comme chaque mois, il y aura quelques conjonctions. Le lundi 28, le croissant de lune se lèvera juste sous Mars, environ la largeur de 2 doigts bras tendus, avec à l'est Vénus surplombant Saturne. Ces deux planètes seront d'ailleurs au plus près dès le lendemain, mardi 29. Enfin, dans le calendrier, on notera la date du dimanche 20 mars, qui est l'équinoxe de printemps, et marque officiellement l'entrée dans cette saison. Du point de vue astronomique, cela signifie que le Soleil franchit la ligne de l'équateur céleste, projection de l'équateur terrestre sur la voûte céleste, précisément à 16h33min23s, ce qui veut dire qu'il restera la moitié d'un jour, 12 heures, dans le ciel, avant que la durée du jour ne l'emporte sur celle de la nuit pendant tout le printemps et l'été. Je rappelle que équinoxe veut dire nuit, un nox, et égal, équi, sous-entendu la nuit égale au jour. Et dans le calendrier, nos auditeurs peuvent aussi noter le mercredi 30 mars qui devrait voir notre prochaine chronique astro, puisque je vais profiter des 5 mercredis de ce mois pour nous recaler au dernier mercredi du mois comme c'était notre habitude avant des reports liés aux fêtes de fin d'année et un imprévu fin janvier.
Voilà Michel, merci beaucoup pour cette chronique. Donc rendez-vous fin mars, le mercredi 30 mars, juste avant qu'on retrouve une pause musicale et notre deuxième invité. Rappelez-nous le site où on peut retrouver, archiver toutes les chroniques depuis la première.
Alors c'est www.constellationsetgalaxies.org. Dans le menu en haut à droite de l'écran, il y a une rubrique astronomie dans laquelle on trouve toutes les chroniques radio qui ont été diffusées par Audio Radio depuis septembre 2014. Et c'est là aussi qu'on trouve le ciel du mois avec les cartes et des informations un peu plus complètes que ce que je fais en résumé chaque mois ici.
Voilà, constellations et galaxies au pluriel.org. Merci Michel. On se retrouve le 30 mars. Ce sera la 85e chronique. Donc vraiment un grand merci à vous.